Nous allons pouvoir commencer. Monsieur Raquin, tout de suite, je vous laisse la parole.
Bonjour. Alors, qui a déjà été manipulé, à part moi, je veux dire? Ah, vous, deux, on est plusieurs, alors. Ah, c'est que des femmes, tiens, je me sens un peu coupable. Comment ça se fait, ça? Qui est-ce qui d'autre a été manipulé? Personne d'autre? Ah, tout, est-ce que, alors, autre question, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais été manipulés? Ah, une. Bon, monsieur, vous l'avez repéré, là, pour... lui enrichir son expérience un petit peu dans la vie. Une personne n'a jamais été manipulée. Bien, donc je m'appelle Bernard Raquin, j'ai écrit plusieurs livres qu'on pourra voir tout à l'heure aux éditions Jouvence, et notamment Ne plus se laisser manipuler, et puis différents sur la PNL, l'analyse transactionnelle, les croyances, etc. Souvent, on fait une confusion entre l'influence et la manipulation. Et pourtant, il y a un moyen très simple de faire la différence entre les deux. Qu'est-ce que l'influence? Qu'est-ce que la manipulation? Eh bien, l'influence, c'est en fait faire quelque chose, envoyer une énergie, que ce soit par la parole, par l'émotion, par des comportements, pour inciter quelqu'un d'autre à faire quelque chose. Et la manipulation, c'est exactement pareil. Mais alors pourquoi il y a une différence entre les deux? Eh bien, c'est que dans un cas, l'influence, c'est pour l'autre, et la manipulation, c'est en fait pour soi-même. Et quand on se pose la question, est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour l'autre? On a vraiment très souvent la réponse à la question, est-ce que je suis en train de me faire influencer ou est-ce que je suis en train de me faire manipuler? Par exemple, ce monsieur là devant, ce monsieur très 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 belle chevelure, et donc je sais qu'il est sportif. Hein? Il aime bien faire du sport, etc. Soit je lui dis, ouais c'est super, continue à faire du sport. Je gagne rien en fait. Hein? Ou soit je lui dis, ça serait bien de se remettre au sport et comme ça on pourrait y aller ensemble. Et à ce moment-là, je suis déjà en train de le manipuler pour obtenir de lui un comportement qui, en fait, va me bénéficier. Et bien sûr, on est tous manipulables, et je pense qu'il y a peut-être une extraterrestre parmi nous. Bon, bah, on dit toujours qu'ils sont parmi nous, on en a une là. Mais en fait, on est tous influençables et on est tous manipulables. Et on influence également les autres et on manipule aussi les autres. Et on va voir qu'il est possible de réduire la manipulation qu'on exerce sur les autres et d'être également moins manipulable. Ça commence d'ailleurs dès le berceau. Hein. Comment faire un petit bébé? Il faut bien qu'il obtienne quelque chose. Donc il va chercher les comportements gagnants. Donc selon le milieu familial, selon ce qui fonctionne, selon les résultats qu'il obtient, bah, il va rigoler, il va pleurer, il va bouder, il va se mettre en colère. Et quand il y a une réponse positive, c'est-à-dire qu'il obtient le résultat, il le continue. Tout simplement, le comportement qui fonctionne est reproduit. On fonctionne sur quelque chose d'extrêmement simple. Donc, par la suite, il peut commencer à devenir un petit peu plus manipulateur. Il va commencer peut-être à mentir. Pourquoi? Parce qu'il voit que ça fonctionne, tout simplement. Il voit que le résultat est positif. Et peu à peu, on apprend ainsi à dissimuler des choses et à dissimuler nos objectifs. La manipulation est directement liée au mensonge. Mais comment se fait-il que ça fonctionne au fond? Comment se fait-il que nous ne soyons pas capables de repérer les personnes qui mentent ou de repérer quand on nous ment? J'ai une théorie personnelle sur ce sujet. C'est que sur Terre, personne ne ment. Personne ne ment, mais par chance ou par malheur, nous ne savons pas écouter. Et les autres nous envoient énormément de signaux disant qu'ils mentent, mais nous ne les croyons pas. Pourquoi nous ne les croyons pas? Parce que nous y avons un intérêt. Et pour se démanipuler, pour réduire la manipulation, il y a quelque chose qui est un petit peu moins agréable, c'est que nous sommes manipulés en grande partie par nous-mêmes. Et la manipulation, ce ne sont pas les autres qui sont des pervers narcissiques et des mauvais ou quoi que ce soit. Ce sont simplement des êtres humains, même si certains sont mauvais ou effectivement pervers narcissiques. Mais ils nous manipulent avec notre accord, avec notre assentiment et avec nos encouragements. On peut se faire manipuler une fois. C'est naturel. Hein. On a cru quelque chose. On peut se faire manipuler deux fois. À la troisième fois, on peut se poser des questions. On peut dire, mais comment se fait-il que ça m'arrive toujours ? Qu'est-ce qui en moi attire les prédateurs, les manipulateurs ? Il y a une enquête assez amusante qui a été faite, enfin tragique en même temps, et assez amusante qui a été faite aux États-Unis, à New York, à la police de New York. Ils ont pris des délinquants qui étaient en prison et leur ont montré des vidéos de foule, des gens qui passaient dans la rue. Et ils ont dit, quelle est la victime là-dedans ? Et les gens, ils désignaient le même genre de personnes. Des personnes qui avaient quelque chose en elles, qui allaient attirer, peut-être parce qu'elles étaient trop réservées, elles étaient trop fermées, elles étaient un petit peu comme ça, ou trop gentilles. Hein. La manipulation par la gentillesse, ça c'est aussi quelque chose de terrible. Et donc ça veut dire que les manipulateurs repèrent leur proie et nous pouvons nous fermer ces portes qui sont ouvertes à notre insu. Qu'est-ce que j'appelle ces portes ouvertes à notre insu ? Nous avons des réactions automatiques, incontrôlées, inconscientes, on dirait ici. Peut-être que je suis quelqu'un qui réagit au sentiment. Et que toute personne entrant en moi par la voie du sentiment trouvera la porte toujours ouverte, tout le temps, tout le temps. Il suffira de me faire un langage sentimental, affectif, tac, la porte est ouverte en automatique. Pour d'autres personnes, ça va être la plainte. J'entends une plainte et irrésistiblement, je me raccroche à ça et je vais vers la personne comme, vous voyez, un oiseau qui va repérer un autre oiseau. Et ben, automatiquement, la plainte va ouvrir ça en moi. Pour d'autres, ça peut être aussi le plaisir qui va être toujours ouvert, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une relation directe entre la manipulation et les émotions. Nos émotions, ce sont des choses qui sont ici inscrites en nous. Hein? On pourrait en parler techniquement, mais où se trouvent nos émotions ? Elles sont entre la gorge et le ventre. C'est une toute petite zone de notre corps, finalement, quand on regarde les émotions. C'est juste ici. Alors, est-ce qu'en Inde, on dirait la voie des chakras ? Bon, je pense même pas, c'est plus court que ça, vous voyez ? Tout petit. Et tiens, il y a quelque chose qui déclenche automatiquement. Et alors, nous avons un désir très profond, je pense, je dirais tous, hein, peut-être qu'il y a quelques exceptions, qui est de contrôler les autres. Nous voulons absolument contrôler les autres. Nous voulons contrôler leurs pensées et leurs émotions pour qu'ils nous apprécient, qu'ils nous aiment, et puis bien sûr, pour continuer l'exemple du bébé, ben pour avoir les satisfactions que l'on veut dans la vie, pour faire des échanges qui soient des échanges positifs. Et les autres aussi veulent nous contrôler. Et alors on nage en pleine illusion, parce qu'on s'imagine réellement, par moment, qu'on peut contrôler les autres. On a un certain pouvoir sur ses propres émotions, ses propres croyances. Hein, ici, on est bien placé pour voir qu'on peut les orienter. Est-ce qu'on a un pouvoir pour orienter, contrôler les pensées ou les émotions des autres ? C'est tout à fait hors de portée, mais on s'accroche à ça. Alors comment vont faire les manipulateurs ou les manipulatrices ? Et donc on va voir la différence entre l'influence et la manipulation par rapport aux émotions. On peut influencer quelqu'un par la colère. Ouais, si tu fais pas tes devoirs, tu vas voir, ça va mal aller, j'en ai ras-le-bol, etc. D'accord. Pour qui ? C'est pour l'enfant qu'on va essayer d'inciter à faire ses devoirs. On peut aussi l'influencer pour soi-même, de la même façon. Enfin, le manipuler, mais pour soi-même. Oui, c'est vraiment dommage quand tu es là et que tu n'as rien fait et moi je rentre, il faut encore que je fasse la vaisselle, etc. Au lieu de dire les choses clairement, on va les dire d'une manière indirecte. On peut manipuler, bien sûr, par le plaisir. C'est malheureusement une des plus grandes techniques de manipulation. On nous manipule par le plaisir, mais très souvent, on nous manipule en échange quelque chose de concret contre quelque chose d'illusoire. Vous êtes déjà allé à la caisse d'épargne, hein, et vous mettez 1000 euros à la caisse d'épargne. Au bout d'un an, vous avez combien ? Hein ? Pas beaucoup plus. Vous avez 20 euros, je crois que c'est 2,5%, donc vous avez 25 euros au bout d'un an. Bon, c'est bien, quoi. Hein ? Oui, si on considère l'inflation, c'est peut-être même un petit peu en dessous. Ça dépend effectivement de ce qu'on consomme. Si la personne fume et qu'elle a une voiture, alors là, elle est largement en dessous. Bon, on ne va pas être tellement motivé. Hein. Mais si on nous dit, vous allez multiplier par 3 votre capital en 2 mois ou en 3 mois. Ah, ça m'intéresse, j'ai 1000 euros et dans 3 mois, je vais avoir moi-même 3000 euros. Ah, c'est génial. Et pratiquement tous les escrocs fonctionnent sur ce principe. Mais qu'est-ce qui se passe en nous pour croire ça ? Comment se fait-il qu'en tant qu'adulte, on arrive à croire au Père Noël ? Pourquoi il y a quelqu'un qui viendrait et qui nous donnerait 3 fois la somme qu'on lui a mise ? Pourquoi il ne va pas jouer lui-même ? C'est un petit peu comme les personnes qui vendent les méthodes pour gagner au tiercé ou au loto. Vous savez, il y en a un qui s'est fait arrêter en Suisse. On dit, mais comment c'est possible de croire à ça ? Si quelqu'un savait gagner, il le ferait lui-même. Pourquoi il jouerait toutes les semaines ? Il aurait toutes les semaines 1 million d'euros. Enfin, c'est absurde. Et il y a quelque chose entre ça, c'est-à-dire le résultat, et l'état présent. Il y a un état de transe. On nous met en état de transe et on nous fait perdre la raison. Je vous donne plusieurs exemples. Un faux pilote qui est recherché par la police, donc bel homme, 50 ans, manipulation par le plaisir, la promesse, l'illusion. Il échange quelque chose de présent contre une promesse qui ne tiendra évidemment pas. Donc il repère une nana de 35-40 ans, divorcée, qui a un petit peu d'argent, et puis commence à lui faire la cour, etc., prestige de l'uniforme, etc. Puis peu à peu, la femme, elle se laisse un petit peu amollir et puis elle se dit, j'ai rencontré vraiment l'homme idéal, il est galant, il est courtois. Évidemment, c'est un investissement, c'est un boulot. Hein, il est courtois, il est gentil, mais c'est son boulot. Et évidemment, après, il dit qu'il attend une grosse somme d'argent, il lui paye tout. Et puis peu à peu, pour récupérer cette grosse somme d'argent, il lui demande à elle de l'argent. Et puis une fois qu'elle a donné l'argent, il est parti chercher quelqu'un d'autre. C'est la même chose avec ce qu'on appelle l'escroquerie nigériane là, sur Internet. Je ne sais pas si vous avez reçu ces emails, 45 millions de dollars. Et, c'est-à-dire qu'il y a un inconnu qui vous envoie, c'est-à-dire qu'il envoie à 3 millions de personnes en anglais, mais il y en a en français, disant qu'il est soit ministre des Philippines, soit dans le cacao en Afrique, soit dans le pétrole au Texas ou en Amérique latine. Et si vous l'aidez à faire sortir ces 45 millions de dollars, il vous donnera 15% ou des fois même 30%. C'est-à-dire que vous allez gagner 15 millions de dollars. Si c'était, je suis un pauvre opposant politique en Nigeria ou aux Philippines, et si vous m'aidez à sortir de mon pays, je vous donnerai 200 euros. Bon, laisse tomber, je veux dire, on n'est pas spécialiste. Peut-être quelqu'un va transmettre ça à Amnesty International, où on dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans ? Mais 45 millions de dollars. Alors évidemment, ils vont vous fabriquer des faux comptes sur Internet, etc. Et puis, obtenir quoi ? Que vous leur transfériez 10, 20, 30 ou 40 000 dollars, euros, pour corrompre la police et permettre à l'argent de sortir. Mais si vous avez 45 millions de dollars dans un pays africain, vous n'avez besoin de personne pour corrompre qui que ce soit. Il faut beaucoup moins que ça pour acheter les douaniers, tout le monde le sait, je veux dire, sans être péjoratif. Donc là aussi, dans une illusion, on est dans un état de transe. Un petit peu comme les gens qui vont acheter des appartements en multipropriété, on les met dans un état de transe. On nous fait perdre la raison. Et c'est à ce moment-là qu'on est vraiment en danger, c'est quand on ne raisonne plus. On dit, mais comment se fait-il que des gens normaux, ils se retrouvent dans des sectes, là, et puis tout à coup, ils nous parlent de Sirius, il faut partir pour Sirius, il faut faire des grandes statues de Bouddha ou de je ne sais qui. Au départ, ça avait l'air d'être des gens normaux. Eh bien, on leur a appliqué une technique qui s'appelle le doigt dans l'engrenage. C'est une technique très connue. Mais souvent, nous avons malheureusement en nous un processus qui fait que nous maintenons une mauvaise décision. Je prends une mauvaise décision Et au lieu de dire, oh là là, je suis vraiment trop nul, là, excuse-moi, je me suis planté complètement, je recule, je reviens en arrière, non, je peux plus, j'abandonne. Il faut que je justifie la mauvaise décision à mes yeux et je la renforce. Et je la continue. C'est aussi pour ça qu'on voit des gens qui se convertissent à l'islam et qui, 3 mois plus tard, deviennent des psychopathes assassins. Parce qu'ils ont pris une mauvaise décision et puis au fur et à mesure, ils sont obligés de la renforcer à leurs propres yeux. Et pendant plusieurs années, ils vont maintenir cette mauvaise décision. Donc, au lieu de dire, tiens, je vais reculer, je dis non ou je reviens sur un oui, eh bien, on va maintenir la mauvaise décision. Manipulation par le plaisir et manipulation par le comportement. Si, par exemple, vous êtes dans la rue et puis il y a une personne qui s'approche et qui vous tend une rose, qu'est-ce que vous faites si on vous tend une rose? Vous allez certainement la prendre. Il y a 95% des gens qui vont la prendre. Et puis après, je vais dire, bien écoutez, pour notre œuvre, si vous vouliez contribuer. Et alors, c'était une technique géniale qui était mise au point par les Hare Krishna aux États-Unis. C'était en orange, gling, 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 et puis donnait des roses aux passants. Et puis, donc, manipulation, puisqu'on nous dissimule l'information. Le but, c'est de vous demander du pognon. Alors, on vous donne une rose, on vous dit, c'est gentil, tiens, tout à coup, un inconnu vous offre des fleurs, vous voyez, comme disait le slogan. Ah, c'est sympa, ils sont sympas, finalement, les Hare Krishna. Ah, pas du tout. C'est quand, ainsi, vous êtes obligé de donner. Il vous manipule par le comportement. C'est par le comportement qu'on nous manipule le plus. On nous incite à adopter un certain comportement. Qu'est-ce qu'on fait quand on est là? On va donner un dollar, on va donner de l'argent, on va donner des fois on n'a rien, on donne 5 dollars pour se libérer d'une dette, parce que c'est très important dans la manipulation. Dans la manipulation, on va endetter les autres pour qu'ils nous rendent ensuite. C'est très très fréquent. Qu'est-ce qui se passe après? Ben vous êtes là, vous êtes une femme avec votre rose à la main. Tout le monde se dit, elle a fait l'amour hier soir, puisqu'elle était allée au restaurant et quelqu'un lui a acheté une fleur. Et donc, elle a fait l'amour hier soir, elle est avec sa rose, elle a l'air un petit peu nunuche. Donc, tout à coup, elle la met dans une poubelle. Qu'est-ce que fait un type qui est en costume avec sa rose à la main? Il la met dans la première poubelle venue. Donc, ce qu'il faisait, les Hare Krishna, c'est qu'il faisait le tour des poubelles, il récupérait les roses et il les redistribuait. Donc, chaque rose rapportait un pognon extraordinaire. Donc, on nous manipule comme ça, par le doigt dans l'engrenage, on nous dit quelque chose, on nous dissimule l'information, et après, c'est exactement ce qu'on fait avec les jeunes qui se font escroquer par la téléphonie. Hein. Signez, vous avez 2 heures gratuites. Mais en fait, la personne a signé pour une année entière d'abonnement et elle a 2 heures gratuites, c'est ce qui représente que dalle sur une année. Quoi. On nous dissimule l'information. Et dans les relations, c'est exactement pareil. On peut manipuler par ce que j'appelle la communication billard. Soit il y a la communication directe. Madame, est-ce que vous voudriez bien me servir un verre d'eau? Voilà, c'est direct. Elle me dit oui ou elle me dit non. Et c'est net. Ce que je veux est net. Mais si je lui dis, oh là là, je commence à avoir soif. Hein. Je vais donc lui faire une communication indirecte. Mais il y a une communication qui est encore plus indirecte et qu'on utilise très, très souvent. Ce monsieur-là, l'autre fois, il m'a dit quelque chose de très, très désagréable. Alors, au lieu de lui dire, écoutez, monsieur, franchement, je n'ai pas apprécié ce que vous m'aviez dit l'autre fois. Franchement, je n'ai pas apprécié. Donc, une communication directe. Non, je vais le dire à ce monsieur. Et vous savez ce qu'il m'a dit, lui? Et comme ça, celui-là, il va aller le répéter. Et on fait ça. Alors, dans tous les bureaux, c'est un peu comme la boule de flipper. Ouais, doung, 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 ça va dans tous les sens. Ça crée des confusions absolues. Et ça nous rend manipulables. Parce qu'on est manipulable par manque de clarté. Souvent, on dit, on va essayer d'obtenir, on va essayer de contourner comme ça, et c'est terrible parce que finalement on s'expose ainsi à se faire repérer par des personnes qui vont ainsi nous manipuler, entrer en fait en nous-mêmes. Donc si on veut se protéger, il y a un des plus beaux mots de la langue française qui est le non. Vous avez déjà vu le petit bébé de 3 ans, enfin le petit garçon, la petite fille de 3 ans, c'est surtout les garçons qui font ça, un peu plus que les filles, hein, qui se met à hurler dans le magasin. Non, non. On nous dit toujours, faut réveiller l'enfant intérieur. Alors on dit, ah ouais, c'est l'enfant sympa. Nous, il faut réveiller aussi ce petit démon intérieur de 3 ans. C'est celui-là qui est très important dans la vie quotidienne. et de dire non. Et alors, très souvent, on va faire une erreur parce que le non va être suivi d'explications. On va justifier son non, on va expliquer son non, on va donner des argumentations. Et à chaque fois qu'on rajoute quelque chose au non, on est en train de l'affaiblir. Le non est une phrase complète, il ne faut surtout rien rajouter. Allô, vous voulez un placement défiscalisé ? Non. Mais vous voulez pas payer moins d'impôts ? Non. Déjà, les gens, ils sont pas l'habitude de cette réponse. Mais vous payez trop d'impôts, sans doute, dans votre profession ? Non. Ça suffit, oui. Bon, non. Alors, si la personne insiste, j'ai dit, écoutez, merci de votre appel, c'est terminé. Alors maintenant, ils ont une nouvelle méthode là, dans le phoning, le marketing téléphonique. Puis ça coûte de moins en moins cher parce que c'est fait de Tunisie ou d'Afrique. Alors là-bas, ils ne payent pas cher les gens. Donc il y en a de plus en plus. Quoi. Ça va devenir comme aux États-Unis. Ça va être infernal si on se laisse faire. L'autre fois, monsieur, il y a 2 mois, vous m'aviez dit que vous étiez très occupé et que je vous rappelle aujourd'hui. Alors c'est ce que je fais. Non, ça, c'est pas du tout mon genre de demander à quelqu'un qui fait du marketing de me rappeler 2 mois plus tard, je veux dire. Ils essayent de faire croire que vous avez donné votre accord. C'est terrible. On essaye d'obtenir quelque chose de nous. Vous savez, je parlais du doigt dans l'engrenage. Est-ce que vous voulez donner 100 euros ou 10 euros pour telle cause ? Si on vous dit ça, vous allez dire non, parce que des causes, il y en a 4000, on a chacun les siennes, bon, ça demande réflexion. Non, dites-moi, vous êtes contre le travail des enfants ? Ouais, d'accord. Alors on va signer. Et puis une fois qu'on a signé, on a donné un petit accord, on a fait une petite chose, et c'est à ce moment-là qu'on va continuer, et se faire avoir. Donc, en fait, on essaye toujours d'obtenir de nous un oui, un assentiment, de façon à pouvoir l'élargir. On s'appuie sur une petite faille et on l'élargit. C'est d'un sens où il y a l'autre partie qui est « je reviens sur une décision ». Bon, c'est vrai que j'ai commandé ce truc-là, ouais, c'est vrai, mais bon, finalement, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Pourquoi il y a eu la loi Scrivener en France ? Parce qu'en fait, il y avait des immigrés, portugais, maghrébins, ils se retrouvaient avec une encyclopédie Britannica à 3500 balles, ils ne savaient même pas à quoi ça servait, et comme ils étaient face à un vendeur ou une vendeuse très habile, en plus c'est assez facile, il y a des gens qui sont faciles à manipuler, eh bien, la personne se retrouvait avec ça et puis avoir des dettes pendant des semaines ou des mois. On a dit non, maintenant, le démarchage, on aura toujours une semaine pour revenir en arrière et normalement, il ne doit pas y avoir d'encaissement de chèque la première semaine. Enfin, c'est même la loi. Pour nous protéger. Comment on peut appliquer ça à nous-mêmes ? Je vais réfléchir. Non, j'en sais rien au fond. Je ne sais pas. Et puis après tout, j'ai changé d'avis. Alors c'est différent parce qu'on aime bien rester engagé par rapport à soi-même, hein, bien sûr. Mais parfois, si c'est l'autre qui nous piège, si on se dit « mais je suis engagé par rapport à moi-même ou par rapport à l'autre ?» De qui c'est l'intérêt ? On dit « mais des fois, mais est-ce qu'on n'est pas une espèce un peu folle ?» Vous savez, à Barbès, les escroqueries que font les marabouts, entre guillemets, parce que ce n'est pas les vrais marabouts, mais ceux qui s'appellent marabouts dans les journaux, hommes de Dieu ou des Africains. Alors, vous me donnez 100 euros. Et puis moi, je double, parce que je fais une prière, Allah, il est grand, etc. Et puis je lui rends 200 euros. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me redonne les 200 euros, je lui redonne 400 euros. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va chercher tout l'argent qu'elle a, elle va emprunter à tout le monde, et elle me donne 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Et qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, il n'y a plus rien, évidemment, je disparais. Cette technique est absurde. Eh bien, elle fonctionne. En Afrique, il y en a aussi. J'ai une amie africaine, elle rentre chez elle, en Afrique, et elle voit un mec qui est vraiment le pouilleux de base, quoi, voyez, qui vend des cigarettes au détail, le type qui n'a rien. Il lui dit, viens, je vais te doubler ton argent. Alors, elle lui donne 1 centime d'euro. J'en ai pas. Moi, je lui donnerais 10. Moi, je suis généreux. C'est encore plus, il serait encore plus riche. Vous faites ça. Il dit, tu dis, tiens, tu prends ça. Tu le multiplies par 2. Tu as donc 20 centimes. Tu le multiplies par 2, tu as 40 centimes. Tu fais ça 100 fois dans la nuit et tu es plus riche que Bill Gates et la reine d'Angleterre réunie. Si vous faites le calcul, vous ne pouvez pas faire le calcul sur une calculette, il faut l'ordinateur. C'est un chiffre hallucinant. Si on avait la capacité de gagner tant d'argent, est-ce qu'on en ferait profiter les autres? Pourquoi est-ce que quelqu'un ferait ça pour moi? C'est là où on laisse la porte ouverte, où on a une naïveté extraordinaire. Qu'est-ce qu'on nous vend? Je me rappelle d'un client, il voulait avoir des pouvoirs magiques. Je lui dis, n'étant pas Merlin, c'est plus une thérapie qu'on va faire que des pouvoirs magiques. Au bout de 2-3 mois, il arrête. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va voir un mec qui lui vend des pouvoirs magiques. Résultat, après, il est obligé de trouver un travail de nuit pour rembourser ses dettes parce qu'il lui avait pris 20 ou 30 000 balles. On veut des illusions. Mais on se dit, mais est-ce que ça, c'est pas pour seulement les gogos, là, ou les gens pas trop éduqués? Ah bon? Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait au concours, l'escroc français? Il a fait ça. Vous allez dans un bistrot, enfin, un café select. Vous prenez un café, vous laissez 100 dollars, vous partez. On se souvient de vous, ça c'est garanti, on se souvient de vous. Le lendemain, vous laissez 100 dollars, le surlendemain, 100 dollars, le train. Et au bout d'un certain temps, on se dit, mais d'où tu viens là? D'où t'as l'argent? Et alors on cachette, on crée une relation affective pour nous mettre en transe, pour nous faire perdre la raison. On crée une relation affective, c'est beaucoup dans la manipulation. Eh bien écoutez, c'est simple, on les fabrique. D'ailleurs, je vais vous le prouver, voilà deux billets de 100 dollars que j'ai fabriqués. Je vais aller les déposer à la banque. Il va à la banque avec la personne. La caissière vérifie les billets, constate évidemment qu'ils sont bons. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vrais, tout simplement. Et l'autre, aussi idiot que ça paraisse, eh bien, il va donner tout son argent, 10 000 dollars, 500 000 dollars pour Polnareff et des millions pour d'autres. Des gens qui étaient éduqués, qui étaient connus, qui n'étaient pas l'analphabète de base. On dit, bon, là, c'est une proie facile. Non, pas du tout. Mais comment c'est possible? Et donc, le même système. Hein. Si vous me donnez 100 dollars, je vous en rends 200. Il fait ça, il y a un certain nombre d'allers-retours jusqu'au moment où on va perdre la tête. Et cette façon de perdre la tête, c'est fondamental. On l'utilise aussi dans les ventes sous chapiteau. Vous connaissez ce système? Ouais, on va vous offrir un voyage. Et alors, c'est le système Fidel Castro, c'est-à-dire qu'on vous empêche d'aller faire pipi. Ça a l'air tout simple, mais au bout de 2-3 heures, là-bas, là, sur la place de la Révolution, là-bas, au bout de 2-3-4 heures, avant, maintenant, il y a moins la santé, on pense plus, on est là, on est devenu un corps collectif, quoi. On a perdu la raison. Et là, pareil, tenez un super service pour 50 dollars ou 50 euros. Alors la dame, elle me dit oui, elle me donne un chèque. Je lui dis, vous gardez le chèque, vous gardez l'appareil, vous gardez tout. Donc la deuxième fois, c'est un jeu, il y a un enthousiasme. Alors hop, elle va me refaire un chèque. Et le dernier chèque, il ne sera pas de 100 euros, il sera de 3-4 000 euros. Il y a des gens qui se retrouvent au bout avec 152 pièces de vaisselle, avec un séjour en multipropriété, des vacances en croisière, alors qu'ils n'ont pas du tout d'argent. On nous manipule parce qu'on nous met dans un état de transe. Et si on se dit, qui obtient quoi? Qui obtient quoi? C'est pour ça qu'il faut dire non, reprendre son oui, hein, récupérer son oui, et puis il faut faire attention à ce que le contrat soit juste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on nous vend? On nous vend souvent des choses qui ne sont pas précisées. Dans la manipulation ordinaire, vous achetez une boule de Noël, là, ou vous achetez une petite voiture miniature avec les petites... comment ça s'appelle vous savez, les magazines là, avec des jouets dedans, des montres, des trucs... voilà, vous voyez ce que c'est je ne me rappelle plus. Hein? Oui, là, Atlas. Il y en a plusieurs, il y a Atlas qui fait ça. Si on vous dit, vous allez acheter un magazine pour avoir la collection complète pendant 3 ans et demi, et vous additionnez les euros, et vous dites, oh là là, ça fait trop cher. Mais en fait, le but, on n'achèterait jamais. Donc le but, c'est de vous vendre évidemment un truc pas cher au départ, et ensuite, de vous inciter de toutes les façons possibles à ce que vous vous abonniez. Et une fois que vous êtes abonné, ben, oh, c'est dommage, hein, c'est le principe des collections. On manipule tous les gosses avec les Pokémon, hein, c'est pareil, on nous manipule. Parce que, ah ben oui, mais il me manque toujours. Évidemment, comme en plus, de l'autre côté, il y a des équipes entières en Corée, aux États-Unis, en France, qui sont en train de penser aux prochaines séries pour nous piéger. Donc, bien sûr, on est piégé parce qu'on est des êtres humains. Et ce qu'on pourrait se dire aussi, c'est parfois, est-ce qu'on n'est pas trop gentil dans nos relations avec les autres? Est-ce qu'il nous arrive de ne pas vouloir faire de peine? Par exemple, on peut être manipulé parce qu'on n'a pas voulu faire de la peine à quelqu'un. Alors des fois, c'est justifié. Hein. Si, il faut faire très attention, il ne faut pas forcément être toujours honnête. Si votre femme ou votre mari vous dit « Est-ce que j'ai grossi ?», la réponse est non, hein, je vous la donne tout de suite. C'est la seule réponse qui soit acceptable. Est-ce que j'ai pas vieilli ces derniers temps? Non, pas du tout. Tu es aussi ravissante que jamais, etc. Faut surtout, la vérité doit rester quand même un petit pour soi-même. Non, parce que sinon, si on lui dit c'est vrai qu'actuellement t'as vieilli, aussitôt il y a les représailles. Elle dit oui, mais toi tu bois trop, toi tu ronfles, toi t'as pris 10 kilos. Ouais. Donc il faut faire attention à faire des échanges. Et en fait, la règle fondamentale, c'est celle-ci. On a des échanges qui sont négatifs et qui sont des échanges secrets. C'est vrai, ma chérie, j'ai 20 ans de plus que toi, mais enfin j'ai quand même accepté ton enfant. Donc on n'en parle jamais. Vous voyez, c'est ce genre de choses, les échanges secrets dans un couple. Hein. Mais il y a aussi des échanges qui sont, la plupart des échanges, qui sont positifs. Est-ce que, autre question donc fondamentale, si on veut éviter de se faire manipuler, est-ce que l'échange est respecté? Est-ce que les deux parties y gagnent? Si les deux parties gagnent, on est dans une très très bonne relation humaine, normale. Des fois, on peut gagner tous les deux des choses négatives, hein, mais ça, c'est un choix personnel. Mais est-ce qu'il y en a un qui va gagner plus que l'autre? Est-ce que moi-même, je ne suis pas complice de me faire manipuler? Je ne suis pas complice du prédateur qui est en train d'entrer en moi? Pourquoi est-ce que je serais trop gentil? Parce qu'on est dans une culture quand même globalement christianisée depuis très longtemps. On nous dit les valeurs suprêmes, c'est l'amour. C'est d'aider les autres. C'est d'être bon. Alors on n'y arrive pas, mais on se dit on baigne quand même dans cet arrière-fond-là quand même. Hein. Donc il ne faut pas que je sois méchant. Il ne faut pas que je pense du mal de moi. Et on se fait manipuler parce qu'on veut protéger sa propre image de soi-même. Faut pas que je sois quelqu'un de pas bien, moi. Ah, tu te rends compte, dans le métro, là, la nana qui passe avec son petit carton « Je suis réfugié, j'ai 4 gosses, etc. » Et moi, je donne pas. Ah, mince, je suis un peu gêné quand même. On m'a pourtant dit à la messe pendant 30 ans « Il faut aider les pauvres, donne aux pauvres, donne aux pauvres. » Et là, je me dis « D'accord, les 100 premiers, ça passe. » Les 1000 premiers, ça commence à devenir lourd, mais enfin, les 3000e, on en a vraiment plus que là. C'est comme quand on a entendu 2000 fois le même air d'accordéon, il n'y a que 2 ou 3 airs dans le répertoire, on en a ras-le-bol. Et donc, on se sent obligé, et on se sent obligé, et c'est vraiment une des principales techniques, on se dit, mais est-ce que l'autre, il ne m'incite pas à adopter un comportement? C'est pas par les paroles qu'on manipule le plus, hein. C'est par le comportement. On nous fait faire quelque chose. On nous habitue à faire quelque chose. Aussi bien dans ce qui a le plus négatif que dans ce qui a le plus positif, ça se traduit par des actes. Et alors, donc, le maître du temps me dit que là, c'est le moment de passer aux questions. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? Monsieur a une question.
Ouais, non, mais c'était très bien tout ce que vous avez dit. Mais vous, là, vous nous avez influencé ou manipulé?
Alors, je vous ai influencé dans la mesure où c'est pour vous. Donc, ce n'est pas de la manipulation parce que là, j'attends rien de vous. J'espère beaucoup, en revanche, que votre ami ira acheter tous mes bouquins au stand à côté. Mais pour votre bien, pour votre... Non, c'est clair, c'est quelque chose de clair, tout à fait. C'est tout à fait clair, vous regardez, vous achetez, vous n'achetez pas. Mais, ah oui, c'est beaucoup mieux, ouais. C'est mieux, tout à fait, oui, oui. Je vous serais très, très reconnaissant. Par quel biais? Par mes pensées. J'aurais des bonnes pensées pour vous.
Voilà, comment faire quand le manipulateur utilise... quelqu'un pour vous manipuler, un enfant pour vous manipuler?
Alors, là, effectivement, c'est très important parce qu'on se sert des autres comme de balles de tennis, on les balance à l'autre, ils nous la rebalancent et avec les gosses. Alors, va dire à ton père, va dire à ta mère, tu diras à ton grand-père qu'il a... Pas, tu diras... non, direct. L'idéal, ça serait de refuser absolument. C'est pas toujours facile, mais je pense qu'il faut vraiment, on peut s'entraîner à ça, refuser d'utiliser les enfants pour faire une demande à quelqu'un d'autre, à son mari, à son ex ou à qui que ce soit. Non, l'enfant, il n'a pas à être concerné par ça. il est pas là pour, enfin je veux dire c'est pas un diplomate, il est peut-être le moins bien placé sur Terre pour être diplomate de quoi que ce soit et comprendre les rapports de manipulation. Et en plus c'est pas bon parce que l'enfant ça le met dans une double contrainte, c'est-à-dire que on peut l'inciter à devenir schizophrène. Batson avait très bien expliqué ça. Quand il reçoit des ordres contraires, c'est-à-dire une double contrainte, il doit faire allégeance à son père, il fait allégeance également à sa mère. Hein. Il les aime tous les deux, il peut avoir parfois des préférences, mais il ne veut pas prendre parti. On lui dit, attention, tu dois prendre parti pour moi. Donc ça l'oblige à commencer à mentir et à faire semblant de dire oui à l'autre, ou l'autre il fait pression, est-ce que tu m'aimes? Ouais, ta mère elle est comme ça, ou ton père il est comme ça. C'est très mauvais pour les enfants. Donc il faut refuser de les mêler à ça. Non, moi je ne prends pas les messages, tu m'appelles directement. Alors, pendant un premier temps, c'est une question très importante, je finis juste ça. C'est très important, quand on cesse de se faire manipuler, que font les autres? Ils augmentent la dose. Ben oui, ils augmentent la dose pour revenir au résultat. Quand on change, on l'a tous vécu ici, quand on change les autres, l'entourage, il fait tout pour qu'on revienne à la situation antérieure. Avant, on était mieux avant, mais qu'est-ce qui t'arrive en ce moment-là? Tu ne fais plus rien, tu nous parles différemment, tu sors. Non. Donc, il faut résister pendant 3 mois. Résister pour apprendre aux autres un nouveau comportement. C'est nous qui enseignons aux autres la façon de nous traiter. Et il faut donc les rééduquer. Ça prend quelques mois.
Oui. Monsieur. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que certaines techniques de communication, comme la PNL, par exemple, pourraient être des techniques de manipulation si elles ne sont pas bien digérées?
Si elles ne sont pas bien digérées, elles le sont. Alors, vous pouvez lire un très bon livre de Bernard Raquin, La PNL au quotidien, au stand à côté. En fait, toutes les techniques sont déjà de la manipulation ou de l'influence. C'est selon la personne. C'est la même chose, c'est-à-dire que tout ce qui va être utile pour la manipulation va être aussi utile pour l'influence ou la démanipulation. C'est simplement l'objectif qui va changer. Et alors, dans la PNL, il y a eu, surtout il y a une vingtaine d'années, il y a eu énormément de choses très grossières qui ont été faites avec la synchronisation, etc., dans les entreprises. Et c'était effectivement de la manipulation, mais ça s'est ensuite arrêté. Parce que ça ne donnait plus de résultats, ça a été même des effets contraires. Les manipulateurs n'ont pas forcément besoin d'apprendre des techniques. C'est plutôt à nous d'apprendre les techniques qu'ils utilisent pour ne plus se laisser manipuler. Parce que le manipulateur, soit il est appris dans l'enfance à mentir, à être mythomane, à inventer, donc il a une très très grande expérience, vous voyez ? Donc, on n'est pas sur le pied d'égalité. C'est comme si vous discutez avec un politicien ou avec un avocat, ça ne sert à rien la plupart du temps. Il a l'art de ça, de la mauvaise foi, de parler, de justifier tout et son contraire. Vous voyez ?
Je veux dire, sauf s'il s'agit d'influencer avec intégrité.
Voilà, un des meilleurs livres de la PNL de Jenny Laborde.
J'ai une autre question là. La PNL pour voir en analyse transactionnelle, oui. Est-ce que finalement l'analyse transactionnelle ne serait pas un outil bien adapté pour ne pas se faire manipuler?
Alors, effectivement, l'analyse transactionnelle, un autre petit livre qui est de Bernard Raquin, merci de me donner la perche, je vous remercie à chaque fois, parce que l'analyse transactionnelle a beaucoup analysé les jeux psychologiques entre les gens. Et alors, c'est très fascinant parce qu'on en est complètement dans des scénarios qui se reproduisent à notre insu. L'autre nous envoie un truc. Ouais, qu'est-ce que t'as dit l'autre jour? C'est un hameçon. Je réagis pas. Ah bah non, il faut insister. Qu'est-ce que t'as dit l'autre jour? Je m'en rappelle plus. Ouais, tu te rappelles jamais de rien. Et en fait, l'autre personne veut essayer de nous faire entrer dans un jeu psychologique. Et puis une fois que c'est déclenché, c'est parti tout seul. Ça y est. Et on a ainsi des scénarios qui se reproduisent et qui durent des fois 20 minutes, des fois plusieurs heures et des fois des jours entiers. C'est très intéressant, effectivement, c'est très amusant de voir ça, avec une certaine indulgence, parce que quand on devient plus lucide sur l'être humain, il faut un petit peu développer l'indulgence, parce que sinon, on va être... voilà. Autre question ?
Je me posais la question, là, en vous écoutant, de savoir pourquoi, dans les grandes entreprises particulièrement, on trouve autant de manipulateurs, je dirais, à des postes clés. Parce que finalement, il n'y a pas que des imbéciles, je dirais, dans les hautes sphères. Et ça me frappe, quoi. Il doit y avoir une explication à ça.
Le pouvoir va avec la manipulation. Ça, c'est. Ouais. Et plus le pouvoir est absolu, plus il va avec la manipulation. Quelle est la problématique de quelqu'un? C'est d'obtenir, tout le monde, hein, d'obtenir quelque chose. Si vous êtes commerçant, bah, vous allez présenter bien vos produits. Vous êtes dans l'influence pour présenter vos oranges sur le. Mais si vous êtes dans la manipulation, vous direz à l'intérieur, il y a un tel truc qui n'est pas cher pour essayer de vendre autre chose. Ça, les grandes entreprises font ça aussi, les grandes surfaces. Mais dans la manipulation, pour obtenir qu'une équipe fonctionne, il faut essayer de répondre aux aspirations de différentes personnes en leur donnant un objectif. Et on est très souvent manipulé par l'objectif. C'est probablement ce qu'il y a de plus dangereux en nous, c'est l'espoir. On peut aller vers le bûcher, on peut aller avec un espoir extraordinaire. On a pu faire des choses épouvantables, que ce soit les nazis, les communistes, les maoïstes ou les islamistes. C'est dingue, il y a quelque chose qui nous tire. Ah, on est en transe. C'est ça. Et donc, dans une entreprise à une plus petite échelle, il faut dire aux gens, oui, on travaille pour une bonne cause, les valeurs de l'entreprise, il faut écraser nos concurrents. Et on nous réveille des choses qui ne sont pas des choses personnelles, qui sont des mécanismes humains. Un des mécanismes principaux sur Terre, c'est la rivalité. Hein, on est en concurrence, il y a les autres, etc. Donc, effectivement, très souvent dans les entreprises, les leaders vont apprendre soit à influencer, soit à manipuler. Et parfois, ils vont être un petit peu ambigus, ils vont parler à chacun le langage qu'il attend. Donc c'est quelque chose, malheureusement, de tout à fait normal, et c'est à nous de ne pas nous laisser faire. En politique, on sait très bien que si on prend les deux derniers présidents, je veux dire, c'est des menteurs de A à Z. Tout ce qu'ils ont dit, c'était tout à fait le contraire. C'est juste pour être élu, quoi. Donc, le pouvoir va vraiment avec le mensonge. Pour moi, le pouvoir est frère du mensonge, tout le temps. Donc, c'est à nous de dire non, non, mettons des contre-pouvoirs. Autre question, mademoiselle.
Bonjour, monsieur, excuse-moi d'être en retard.
Oui, vous avez, mais ça a commencé vraiment avec votre arrivée. Avant, on a dit des généralités.
Mais je voulais savoir, donc je parle en tant que maman, je voulais savoir, là, c'est bientôt le Noël, et je suis un peu accablée par le fait qu'il y a partout, là où je vais, des jouets, des choses qui attirent mes enfants. J'ai deux enfants, deux garçons, 5 ans et 3 ans et demi. Mmh. Et j'arrive pas à vraiment dire non, parce que je voudrais quand même faire plaisir. Je sais que le non est important. Je suis arrivée au moment où la phrase clé, le nom, c'est une phrase complète. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'aider dans cette démarche? J'ai vraiment envie de le maintenir.
Oui,
je ne sais pas comment faire, parce qu'il y a d'autres.
Alors, pour les enfants, c'est très important de lui dire oh, c'est vraiment un très, très beau jouet. Je comprends vraiment que tu en aies envie, mais je ne te l'achèterai pas. C'est-à-dire qu'il y a deux phases différentes. Il faut accepter que l'enfant désire, parce qu'il ne faut pas lui couper son désir. L'enfant, c'est un être qui désire tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est normal. Oh, c'est beau, maman, achète-moi ça. Oh, c'est beau, c'est beau. Il est comme un fou là-dedans, c'est normal. Et puis toute la télé, tout le monde, à l'école, tout le monde. Enfin, il y a une sorte de fièvre hein, qui s'empare de nous à ce moment-là. Donc, on reconnaît la légitimité de son désir. Il a le droit de s'exprimer. Parce que si, par exemple, il me dit... maman, regarde, c'est beau, achète-moi ça. Et je lui dis, arrête de réclamer, non, je l'empêche de désirer. Donc, il a le droit de désirer, premièrement. Et deuxièmement, il a le droit aussi de s'habituer sur Terre à ce qu'on n'obtienne pas, ce qu'on désire. Et c'est une très, très bonne éducation de dire, c'est magnifique, vraiment, quel beau train électrique. Et la réponse est non, j'ai pas les moyens, j'ai pas envie. Et la réponse est non. Mais il est moins frustré parce qu'il a pu exprimer. Mademoiselle, je crois que vous avez une question. Voilà, la dernière question. Alors, vous avez le choix. Soit on dit, on garde le meilleur pour la fin, ou alors on dit, in cauda venenum, le venin est dans la queue. Au choix.
Moi, c'est un cas un peu plus concret. En fait, je fais des entretiens avec des familles et je suis en entretien une maman qui est séparée de son compagnon depuis 2 ans et demi maintenant. Mm-hmm. Et ensemble, ils ont un petit garçon de 4 ans. Et le papa est vraiment très manipulateur vis-à-vis de la maman et il utilise son enfant. J'ai pensé à ça par rapport à la question de madame, pour, enfin, il utilise l'enfant en disant que c'est pour son bien, mais c'est vraiment, enfin, je pense qu'il en a un peu rien à foutre de l'enfant, vulgairement parlant, mais c'est plus pour atteindre la maman. Et comment faire, enfin, la maman, elle sait vraiment pas comment faire, et j'arrive pas.
Là, il faudrait que ce soit plus précis en fait comme question, parce que qu'est-ce qu'il fait ? En quoi est-ce qu'il est manipulateur par rapport à son enfant ?
Mais en fait, il, par exemple, dans la rue, le monsieur arrête, enfin, la maman est harcelée par ce monsieur. Il arrête sans arrêt en disant, mais c'est pour l'enfant, c'est parce que j'ai envie de voir mon enfant. Donc l'enfant pense que son papa veut venir le voir, mais finalement, l'objectif de monsieur, c'est pas de voir son enfant, c'est d'arrêter la maman pour...
Pour l'embêter. Ouais. Ouais. Et il faut, dans ce cas-là, quand il y a manipulation, il faut malheureusement se rappeler d'une chose très désagréable qu'on déteste tous, c'est qu'il y a des rapports de force dans la vie et qu'il faut aussi aller parfois au conflit. Et c'est pour ça qu'il y a des lois et des règlements. Si vraiment elle se sent harcelée, seule une décision judiciaire... Vous savez, les paranoïaques et les manipulateurs peuvent être vraiment tenus par des décisions quand ils ont peur. S'ils n'ont pas peur, ça, c'est le principe des humiliations, des raquettes, etc. Tant que le rapport de force n'est pas modifié, la manipulation ou le harcèlement continue. Elle n'est pas seule. Elle est dans un pays où il y a des lois qui existent depuis, mettons, 30 000 ans, puisque Cro-Magnon, c'était en France. Donc, depuis 30 000 ans, il y a des lois. Donc, il faut s'appuyer sur ces lois-là.
Et est-ce qu'il ne peut pas manipuler le juge aussi, qui a l'air plus qu'il n'est qu'un homme, hein ?
Non, parce que c'est plus les juges femmes qui sont manipulées. Non. Bien sûr, on peut manipuler le juge, mais le juge, vous savez, il a quand même l'habitude, sauf s'il a 25 ans, mais le juge, il a l'habitude. C'est quand même très dur de manipuler un juge. Chacun essaye d'influencer, mais il a une certaine force, quoi, et une certaine expérience. Je vous remercie infiniment. Alors, si vous avez d'autres questions, je vais être juste là, à l'entrée à gauche. Hein,
au stand de Jouvence.
Au stand de Jouvence, voilà. Hein, d'accord. Merci infiniment de vous être déplacé un dimanche matin. Et puis, j'espère à bientôt. Alors, merci à vous. Merci. Au revoir.